Bonsoir. Pour cette dernière table ronde, enfin, pas tout à fait dernière, enfin bon, la dernière pour moi, du jour, voilà. D'Utopia aux Utopiales, 16 ans d'un festival. Le festival auquel vous assistez aujourd'hui s'appuie sur de solides fondations dans l'espace et dans le temps. L'espace, c'est tout autour de vous. C'est bien sûr celui de la Cité des Congrès de Nantes, qui accueille et finance les Utopiales. Cité des Congrès, représentée ici par Marie Masson, administratrice culturelle, qui supervise l'organisation du festival depuis 2007. Mais ce qui a donné vie et énergie au festival, c'est aussi la profondeur de son histoire et la continuité de l'engagement de ses présidents et directeurs artistiques. Le premier pilier historique des Utopiales, c'est son fondateur, Bruno Della Chiesa. Sociolinguiste passionné de philosophie du langage et de géopolitique, il travaille depuis 15 ans sur la neuroscience éducative dans une trentaine de pays. Bruno Della Chiesa a donné forme à sa passion pour la science-fiction en fondant le festival Utopia en 1998. Utopia, hein. Alors au Futuroscope de Poitiers. Même si le nom choisi indiquait que ce pari pouvait sembler fou à l'époque, son énergie et son engagement lui ont permis de mettre sur pied un festival accueillant la littérature, la bande dessinée, les arts graphiques, et qui a pu grandir pour accueillir le cinéma et maintenant bien d'autres formes de création, pour un succès public très important de la première édition, et qui ne s'est pas démenti depuis. Son ambition de créer un lieu de rencontre européen s'est réalisée et consolidée avec le transfert du festival à Nantes en 2000, qui a vu la naissance de l'association du festival, d'abord présidée par Mireille Rivalan, des éditions La Talente, puis par l'auteur des fameuses récits romanesques, parmi lesquels Les Guerriers du Silence, L'Enjeu Mineur, La Fraternité du Panca, Pierre Ordage, qui est devenu depuis longtemps une figure tutélaire pour le festival. En 2001, Bruno Della Chiesa partage la direction artistique avec Patrick Giger. C'est cette année-là que le festival est rebaptisé Les Utopiales. De 2002 à 2005, la direction artistique revient à Patrick Giger, historien et directeur. J'ai peut-être fait une petite erreur temporelle, non ? Ça va ? Oui. Donc, historien et directeur de 1999 à 2011 de la Maison d'ailleurs, musée exceptionnel consacré à la science-fiction qui se trouve à Yverdon et qui est devenu, donc Patrick Giger, depuis le directeur du lieu unique à Nantes. Il a eu à cœur de faire dialoguer écrivains et scientifiques et de renforcer les conférences et rencontres qui sont maintenant l'un des gages de qualité du festival. Sous la présidence de Pierre Bordage et la direction de Patrick Giger, le succès public n'a cessé de croître, tandis que la variété des approches culturelles s'élargissait encore. Après une édition assurée par l'équipe du Festival du film fantastique de Neuchâtel, si j'ai bien compris, c'est ensuite l'association des Utopiales qui s'est engagée dans la direction artistique. Toujours sous la présidence de Pierre Bordage et avec comme soutien Marie Masson qui œuvre depuis 8 ans pour garantir que ce festival d'une complexité croissante demeure un événement convivial, fait de contacts humains et de rencontres stimulantes. Enfin, depuis 2012, Roland Lehoucq, président de l'association des Utopiales, et Hugo Bellagamba, délégué artistique, ont repris le flambeau. Le premier est astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et passionné par les rapports entre science et science-fiction. Le second est écrivain de science-fiction et chercheur en droit. L'union de leurs compétences et de leur sensibilité leur a permis de poursuivre la tradition d'ouverture intellectuelle et culturelle établie et consolidée par leurs prédécesseurs. Alors, après ce préambule un peu formel, nous allons entrer tranquillement dans cette rétrospection, en même temps tournée vers une forme d'anticipation qui est le souvenir du festival. Alors, j'aimerais commencer par un petit tour de table ronde. Nous avons beaucoup d'intervenants, mais... Ils auront chacun leur vision du festival et j'aimerais commencer par simplement poser une question très simple. Que représente le festival pour vous ? Et Bruno Della Chiesa.
Énormément de souvenirs. Quelques très bons et beaucoup de très mauvais. Comme tu l'as dit très justement, j'avais commencé à travailler sur cette idée en 96 en fait. Et le premier festival a eu lieu en 98, même si Nantes a tendance à l'oublier. Il y a eu deux festivals en 98 et 99 qui ont eu lieu au Futuroscope. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que dans les affiches que vous voyez tourner là, ça commence en 2000. Comme si tout ce qui n'était pas nantais, en fait, n'avait pas droit à l'existence.
C'est ma faute, désolé. Je n'ai pas trouvé d'image de qualité pour les affiches. Je m'y suis pris un peu trop tard. Non, désolé.
C'est pas grave.
Mais c'est vrai que je le regrette.
Je voyais là une manifestation de l'esprit de clocher qui a toujours été un des... une des pierres d'achoppement pour moi dans le montage de cette manifestation. Enfin bref, disons que, comme j'ai eu l'occasion de le dire à un fanzine à l'époque, dont j'oublie le nom, on m'a demandé pourquoi j'avais créé ce festival et comment. Et je reprends la phrase parce qu'elle avait, tellement déplu à tellement de gens que je ne résiste pas au plaisir de la reprendre ce soir. Quand j'ai créé le festival, je savais tout ce que je devais savoir et j'ignorais tout ce que je devais ignorer. En gros, je lisais de la science-fiction depuis une bonne, depuis 25 ans environ. J'avais commencé vers l'âge de 10 ans, comme d'autres, beaucoup d'autres ici. Et je m'intéressais essentiellement à la littérature de science-fiction. Ça n'a d'ailleurs pas tellement changé. Dans mon esprit, le festival était un festival de littérature et les autres formes d'expression avaient certes droit de citer, mais de façon plus marginale. Et j'ignorais tout ce que je devais ignorer parce que je n'avais jamais rencontré ce qu'on appelle le milieu. En d'autres termes, j'étais un lecteur anonyme et heureux. Et puis, j'ai rencontré le milieu. Voilà, le genre de choses qu'il ne faut jamais faire parce qu'il y a des gens dont il est préférable de connaître l'œuvre sans jamais les rencontrer eux-mêmes. Il y a des gens qui gagnent à ne pas être connus, en fait. Et dans le milieu de la science-fiction, il y en a au moins autant que dans le milieu diplomatique, ce qui n'est pas peu dire. J'ai passé 15 ans aux affaires étrangères et je peux vous y assurer que la concentration de connards au mètre carré vaut bien celle de la science-fiction. Non, tout ça pour dire que, en fait, je me suis beaucoup amusé avec l'idée et puis en développant le projet, mais qu'après, à partir du moment où le festival a vu le jour, en fait, bah, premièrement, je me suis aperçu que tout le monde profitait beaucoup de la manifestation, ce qui me faisait énormément plaisir, et que moi, bah, je ne dormais pas pendant 3, 4, 5 jours de suite, et que j'en profitais pas du tout, que je ne pouvais même pas rencontrer les gens que j'avais envie de rencontrer, que je voyais surtout ceux qui venaient se plaindre, et ils étaient nombreux. Parce qu'en fait, chacun avait sa petite idée de ce qu'aurait dû être le festival, et les gens, beaucoup de gens venaient m'expliquer ce qu'il aurait fallu faire, qui aurait fait, grâce à quoi la manifestation aurait été bien mieux. Alors, entre le fandom qui voulait une convention de science-fiction, les universitaires qui voulaient un colloque à caractère académique, les libraires qui voulaient une énorme librairie, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs, c'était pas simple. Mais bon, j'ai tenu le choc pendant 4 ans, en dépit d'un boulot très prenant à côté, mais très rapidement, comme tu l'as dit, le festival a pris une telle dimension, j'ai été le premier étonné, même si on m'avait prédit. Beaucoup de gens m'avaient prédit que si, lors de la première manifestation, on avait 500 visiteurs, on pourrait s'estimer heureux. On en a eu 6000 dès la première fois. C'était très modeste, évidemment, par rapport à ce que c'est devenu, même 3 ans ou 4 ans plus tard, c'était déjà beaucoup, beaucoup plus gros. Mais bon, j'étais quand même très étonné par les dimensions que ça a prises que le festival a prises. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais un double boulot à temps plein. Ce qui, même pour moi, était un peu excessif. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de passer la main, purement et simplement. Et je me suis dit que j'allais me faire une liste des gens que je connaissais dans le milieu, parce que j'en connaissais beaucoup. Et en dehors de tous les antipathiques que j'avais pu y croiser, j'avais tout de même rencontré des gens extrêmement sympathiques, très agréables, intelligents, ouverts, etc. Je me suis dit, je vais me faire une liste des gens qui sont susceptibles, à mon avis, de reprendre le flambeau et de développer le festival dans un sens que moi, je ne serais pas capable de faire, mais qui reste dans le même esprit. Et en prenant la liste de tous les contacts que j'avais, je me suis dit que j'allais faire une liste de 10 noms et puis que j'allais contacter le numéro 1 qui accepterait ou non. S'il n'acceptait pas, je contacterais le numéro 2 et ensuite le numéro 3, etc. Puis ma liste de 10 noms, en fait, s'est transformée en une liste de 1 nom. J'ai contacté Patrick qui a accepté en 2001. On a travaillé ensemble sur le festival et après, voilà. Donc, beaucoup de souvenirs, mais des souvenirs extrêmement mitigés en ce qui me concerne, parce que, moi, je le faisais à titre bénévole. Ça a toujours été le cas. Je faisais ça sur mes loisirs et je me suis jamais fait... Et pourtant, j'ai bossé avec des politiques depuis... Ça fait 30 ans que je bosse avec des politiques. Je me suis jamais fait autant insulter qu'à propos de cette manifestation. C'est quand même... c'est intéressant à savoir. Et si vous êtes des lecteurs de science-fiction anonymes et heureux, eh bien, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, restez-le.
Alors, Patrick Guigard.
C'est difficile de suivre Bruno, et j'en sais quelque chose. Pour moi, ce festival, c'est une forme de suspension consentie, d'incrédulité permanente. C'est-à-dire que comme vous avez pu l'entendre avec l'intervention de Bruno, c'est quelque chose qui a été assez dur en fait. Il y a des très bons souvenirs lorsque on négociait dès qu'on négociait quelque chose avec Bruno, on faisait good cop, bad cop. c'était évidemment Bruno qui était bad cop. Et on allait genre dans les réunions, et puis qu'il y a des colères énormes. Voilà, on lui disait que tout le monde allait tout arrêter. Et en fin de compte, le fait de faire progresser ce festival vers une manifestation qui, en fin de compte, n'est pas très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. En 2002, 2003, 2004, c'est la manifestation, même si aujourd'hui, évidemment, il y a plus de public, il y a une reconnaissance, etc. Ça a été une très grande difficulté. Ça a été un combat politique, enfin, vis-à-vis des politiques de la place. Ça a été un combat avec et contre parfois les gens qui pensent connaître mieux le domaine que vous ou qui se sentent légitimes sur n'importe quel domaine, hein, que ce soit le livre, la science-fiction, le film ou que sais-je. Mais aujourd'hui, c'est à la fois une très grande satisfaction et c'est totalement improbable pour moi de revenir ici et de penser que cet événement que nous, on voyait mourir quasiment à chaque fin de festival, on se disait, mais voilà, c'est la dernière édition, bon, c'était sympa, c'était bien. Et ce pourquoi, en fait, je crois que ça a fonctionné au début, c'est parce qu'il y a eu une exigence qui était celle du barreau d'honneur permanent. Chaque fois, c'était la dernière édition, en fait. Les trois, quatre premières éditions, c'était, on va inviter tout ce qu'on peut. Je veux dire, parce que de toute façon, c'est la dernière édition, donc il faut absolument que Silverberg vienne, Delany, Jeter, Spinrad, il faut qu'ils viennent chaque fois, tout le temps, le maximum d'invités de tous les pays, des Européens, des films les plus débiles de la Terre, parce que de toute façon, le festival s'arrête. Donc, et je pense qu'il y a une forme d'exigence, mais involontaire, dans le fait d'inviter toutes ces personnes qui étaient là pour... à la fois nous faire plaisir, mais parce qu'on pensait qu'un événement comme celui-ci devait avant tout se construire sur une vraie exigence intellectuelle. C'est-à-dire que non seulement on a fait venir des gens qu'on aimait bien, mais des gens qui, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imaginait, étaient les plus pertinents pour ce domaine-là, en fâchant énormément d'autres personnes, évidemment. Donc moi, aujourd'hui, je suis à la fois très fier de ce qu'on a réussi à faire ici, collectivement, avec la cité, la ville de Nantes et Bruno et d'autres, puisque même quand Bruno a arrêté d'être à la tête du festival, on avait des échanges qui étaient importants. Ensuite, ça a été les échanges avec Pierre Bordage. Eh bien, on a réussi à mettre au monde un projet qui, aujourd'hui, nous échappe. Et ce qui est bien, aujourd'hui, c'est comme une espèce d'enfant ou d'adolescent, voire un jeune adulte qu'on aurait élevé et qui fait des choses auxquels on n'adhère pas forcément et qui nous frustre, mais le fait qu'ils soient arrivés jusque-là est plutôt satisfaisant.
Merci. Pierre Bordage.
Alors, j'étais un auteur anonyme et heureux. Quand j'avais été invité deux fois à Poitiers, donc j'y avais pris beaucoup de plaisir. J'avais fait partie de ceux qui prenaient du plaisir pendant que Bruno ramait pour organiser les choses. Et donc, j'avais vraiment beaucoup aimé ce festival. Et puis, j'étais parti aux États-Unis quand j'ai reçu un courrier de la ville de Nantes m'invitant à prendre la présidence de l'association du Festival international de science-fiction de Nantes. Ça m'a un peu interloqué. Je me dis, mais quelle légitimité j'ai là-dedans ? J'y connais rien. Je connais rien à l'organisation de salons, enfin, bon, etc. Et après réflexion, je me suis rendu compte que je devais pas mal de choses à la ville de Nantes et que c'était l'occasion de lui rendre. Et je lui devais, d'une part, mon intérêt pour la science-fiction. J'ai découvert la science-fiction à l'Université de Nantes, en première année de fac, par le biais de littérature, d'un cours de littérature comparée. Je lui devais ma redécouverte du plaisir d'écrire dans un atelier de création littéraire, première année de fac. Et j'y devais la rencontre de celle qui allait devenir ma compagne pendant 30 ans. Donc je devais vraiment beaucoup de choses à la ville de Nantes. Je me disais, voilà l'occasion de lui rendre ce que je lui dois. Donc bon, j'ai accepté, ne sachant pas où je mettais les pieds. Et finalement, de ces 11 ans de présidence de l'association, je n'ai que des bons souvenirs. Parce que, contrairement à Bruno, j'ai laissé l'organisation à la Cité des Congrès à Marie. Et moi, j'étais plutôt dans un travail de représentation. Bien sûr, les gens venaient me solliciter aussi pour différents trucs, hein, pour les tickets repas et les trucs comme ça. Mais j'évitais quand même les désagréments. Ceci dit... pendant toutes les années de présidence, je n'ai pas pu voir un seul film, ce qui veut dire qu'on est sollicité sans cesse, mais bon, ce n'est pas grave. Donc cette année, je me suis posé, j'ai pu voir un film de la compétition officielle, c'est extraordinaire, un film chinois auquel je n'ai pas compris grand-chose, mais bon, ça fait quand même plaisir. Surtout que c'est sous-titré en mandarin, donc ce n'est pas évident non plus. Donc ce festival pour moi est très important. Moi j'ai beaucoup travaillé, enfin avec Marie, Cité des Congrès, dans le sens de l'ouverture au public maximum, parce que ce que je voulais, c'était, puisqu'on avait ouvert les portes du temple pour moi un jour de la science-fiction, mon idée c'était de les ouvrir au maximum pour le plus de gens possible, parce que le genre est méconnu. Le genre ne doit pas appartenir aux gardiens du temple. Le genre doit être mis à la disposition de tout le monde. Et il me semblait que cet outil-là, la Cité des Congrès et ce festival-là, était l'occasion rêvée pour faire découvrir le genre au maximum de gens possible, c'est-à-dire de leur faire outrepasser leurs propres a priori sur le genre. Et je pense que le pari a été gagné vu la fréquentation des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire ou de regarder ou qui n'ont pas forcément l'habitude de la science-fiction viennent pour découvrir. Et moi, c'est ça qui m'intéressait dans le festival, c'était de faire découvrir au maximum, c'est-à-dire de donner aux gens les codes du genre, parce que le genre a une richesse incroyable et c'était juste la possibilité pour eux de découvrir la richesse de ce genre. Donc moi, j'ai plutôt des souvenirs heureux, en fait.
Bonsoir. Moi aussi, j'ai des souvenirs heureux. Je me rappelle avoir vu débarquer Bruno en 99 ou début 2000 pour visiter la Cité des Congrès dans le cadre de la Folle Journée. À cette époque-là, hein, c'était ça, et on lui a démontré qu'on pouvait organiser quelque chose de fabuleux et de merveilleux. J'ai de très beaux souvenirs de mon côté, beaucoup de travail, évidemment, des bonnes crises de rigolade aussi. Pour moi, les Utopiales, ça reste comme une fabuleuse vitrine de la science-fiction. Je ne suis pas une spécialiste de la science-fiction au départ. Moi, je suis arrivée à la Cité en 98. Et quand j'ai vu tous ces auteurs invités arriver, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai découvert, moi, en tout cas, la science-fiction grâce aux auteurs qui la font. Ce que j'aime beaucoup dans les Utopiales, c'est l'humanité des auteurs et des gens qui écrivent de la science-fiction. Pour moi, les Utopiales, comme tu l'as dit, c'est un engagement auprès des auteurs et du public à faire découvrir ou redécouvrir la science-fiction, à faire passer de vrais messages qui sont pour nous importants. Et franchement, sincèrement, de beaux souvenirs, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. J'ai fait mon maximum à partir de 2007 pour mettre du lien avec l'association, avec les différents conseillers artistiques, pour faire monter la mayonnaise, tout simplement. On pense beaucoup au public sur cette manifestation. J'en suis un bon exemple, puisque quand les Utopiales sont arrivées ici, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas une spécialiste de la science-fiction. Je ne le suis toujours pas, d'ailleurs. Mais je me mettais dans la peau du public qui se disait, tiens, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Qu'est-ce qu'on va comprendre? Pourquoi on va venir sur cette manifestation? Et comme je dis souvent, sur les Utopiales, on vient, je pense, pour rêver, mais on vient avant tout pour réfléchir. Et je sens beaucoup le public ressortir, tout en étant parfois bousculé et interpellé, ce qui est le plus important pour moi, en tout cas. Et merci à vous aussi. Hein. On a passé quand même de bonnes années ensemble. On va les continuer. Et voilà. Voilà ce que je voulais dire.
Je voulais ajouter que j'ai un mauvais souvenir, ce sont les discours. Ah. C'est carrément l'épouvante.
Alors, mon autre mauvais souvenir, je rebondais sur Bruno, c'est la gestion des tickets. Hein. La gestion des tickets pour les invités, les tickets boissons, les tickets déjeuner, dîner, etc. etc. Les couleurs de cordon. Enfin bon, ça, c'est pas simple à gérer, je vous l'assure.
Merci. Roland Le Houc.
Moi, donc, je n'ai que des bons souvenirs des Utopiales. Alors moi, j'étais un scientifique anonyme et un lecteur anonyme. Et depuis, je suis devenu El Presidente. Donc du coup, moi, j'ai vraiment un intérêt à être aux Utopiales. Non, j'ai d'abord été invité plusieurs fois aux Utopiales comme scientifique pour participer aux tables rondes, puisque il y avait déjà, depuis de longues dates, ce mélange entre auteurs, illustrateurs et scientifiques pour discuter des thématiques de la science-fiction. Et moi, comme scientifique aussi, et comme amateur de science-fiction, et déjà j'ai été invité parce que j'avais dû être remarqué pour mes travaux, parce que j'appelle pas ça des travaux, mais sur mes amusements d'utilisation de la science-fiction pour parler de science, comme prétexte pour parler de science. Pour montrer à la fois les faits scientifiques, pour parler des faits scientifiques, de ce qu'est la science, de comment elle voit le monde, et puis aussi de la façon dont elle comprend le monde, de la façon dont elle cherche à comprendre le monde, donc de méthodologie scientifique, pour être plus brutal. Et donc j'ai été invité peut-être trois fois aux Utopiales, quelque chose comme ça, comme participant. Et puis en 2012, enfin un peu avant 2012, puisque c'était déjà en 2011, pendant l'édition 2011, Pierre Bordage souhaitait prendre du recul sur la présidence. Et on m'a proposé, alors Marie, Patrick Giger, m'ont proposé d'être président de l'association Les Utopiales. Et c'était évidemment une proposition que je ne pouvais pas refuser, tant j'avais du goût pour la science, du goût pour la science-fiction et du plaisir, les trois fois précédentes, à venir aux Utopiales. Donc j'ai accepté ça un peu quand même en disant, on me donne les clés d'une quelque chose qui fonctionne extraordinairement bien. Je ne suis pas le seul à avoir les clés, on est plusieurs à avoir les clés. Il y a toute une large équipe à avoir les clés de cette grande machine qu'est les Utopiales. Et donc d'où il y avait déjà un peu aussi l'angoisse de ne pas faillir finalement, que la Ferrari que j'avais en main, la belle machine dont j'étais participant désormais, ne soit pas abîmée par mon action et au mieux soit rendue plus brillante, un peu différente pour tenant compte de ce que moi j'avais envie de mettre aussi dans le festival, mais qu'elle ne soit pas modifiée de manière désagréable à la fois pour le monde de la science-fiction, pour les scientifiques qui y viennent et évidemment pour le public, nombreux déjà à l'époque, très nombreux déjà à l'époque, qui venaient aux Utopiales. Et donc, j'étais d'autant plus ravi d'accepter que je savais que Hugo Bellagamba serait directeur artistique. Hugo Bellagamba, avec qui on avait déjà collaboré, que je connaissais, et avec qui on avait déjà collaboré étroitement comme commissaire tous les deux, pas que tous les deux. Il y avait aussi Patrick Giger, qui était commissaire scientifique d'une exposition, qui était d'une exposition science et fiction qui avait lieu à la Cité des Sciences, à la Villette, et avec en quatrième commissaire qui était Clément Pierre, et qui était à l'époque à la BNF, et qui s'occupait du département des littératures, bizarres, le policier, la science-fiction, et qui collectait tous les auteurs. Ici, on a vu Clément Pierre, il se rappelle de Clément Pierre, impeccablement vêtu, très gentil, et qui venait collecter les manuscrits des auteurs. Gérard Klein, qui est ici présent, on peut en parler, d'autres auteurs que je ne connais pas tous dans la salle présents ici, peuvent témoigner. Et donc, c'était un vrai plaisir d'accepter, finalement, d'entrer dans cette grande maison que sont les Utopiales, et avec Hugo Bellagamba, de réfléchir à la fois à la préserver, mais aussi à la faire évoluer, à la transformer selon nos goûts, selon nos envies, et de mettre, de mon point de vue, un peu plus de science dedans, gardant évidemment, c'est un festival de science-fiction ici, c'est pas un festival de science. Je m'occupe aussi d'un festival de science qui est le festival d'astronomie de Florence, dans le Gers. Donc on est ici un festival de science-fiction. Mais mettre de la science pour renforcer l'idée que, un, la science-fiction, c'est pas un truc de boutonneux, ça permet de réfléchir, c'est une vision du monde avec de la science dedans. Et que la science, deux, c'est pas un truc de dingue, incompréhensible, ça permet aussi de comprendre le monde. Et que la science et la science-fiction à L2, ça fait quand même un mélange particulièrement détonnant et particulièrement intéressant à regarder et à observer. Et donc, c'est l'impulsion qu'on a essayé de poursuivre avec Hugo, en essayant de préserver quelque chose qui était une œuvre et un travail tout à fait considérable des années qui ont précédé notre arrivée aux Utopiales.
Hugo Bellagamba.
Alors, en arrivant à la fin, c'est très émouvant comme ça de tous vous entendre, surtout Bruno là, de t'entendre raconter les premiers pas. Alors on a quand même, je veux rebondir sur ce que tu as dit, on a quand même deux points communs, mais tu vas voir, très différents. D'abord, effectivement, j'ai réalisé assez rapidement qu'il fallait oublier d'aller assister aux tables rondes que j'avais programmées. Alors ça, je n'avais pas bien compris la première année, mais du coup...
Je vais ajouter une chose, c'est pour mettre minable le président précédent. L'année dernière, j'ai vu un film et cette année, je vais voir le marathon Ghost in the Shell. Donc j'essaie de monter le niveau dans ma vision des cinémas tout en ayant passé de 8h à 13h30 en interview, en discussion, sans discontinuer. Donc en essayant quand même d'assurer mon rôle de président dignement. Donc j'essaie quand même de faire monter le rôle du président. Je dois assister à des choses et cette année, je ne désespère pas, à 8h, donc juste à la fin de maintenant, d'aller voir le marathon Ghost in the Shell.
Hein, et ça, c'est le pouvoir du président. Ça,
oui, c'est vrai que Pierre Bordage avait aussi des dédicaces. Mais
c'est vrai qu'il y a des dédicaces, lui. Hein.
Bah,
lui
très bonne remarque.
Là, on voit le vrai niveau. Là, on voit le vrai niveau, si tu veux. Il y a les vedettes pour les dédicaces et puis il y a les mecs anonymes. Hein. Faut reconnaître quand même. Je reconnais au niveau des dédicaces. Je suis un minable. Je connais mon vrai niveau.
Oui, donc Bruno, le lien avec toi, c'est que je n'avais pas compris tout de suite. Marie m'avait soigneusement caché cet aspect-là de la chose.
C'est un peu exprès, ouais.
Voilà, ainsi d'ailleurs que Patrick. Hein. qu'effectivement, en dépit du grand plaisir que j'avais à composer, parce que c'est vraiment pour moi une immense joie de composer les tables rondes et de chercher les thèmes, de chercher les sujets, vraiment je m'amuse, c'est un plaisir infini que d'essayer de mettre les gens que je vois, que j'aime, dont je connais le parcours au meilleur endroit, au meilleur moment, pour qu'ils puissent être heureux de s'exprimer, d'échanger, de ne pas se sentir au mauvais endroit, etc. Mais je n'avais pas compris que j'en verrais aucune. Et donc, depuis 2012, je ne suis aucune table ronde, sauf celle auxquelles je participe. Et là, je prends un plaisir pervers à participer aux tables rondes, parce que moi, tout à l'heure, par exemple, j'étais à côté de Xavier Mauméjean. Il était là, juste à côté de moi. J'ai profité de Xavier tout en jouant mon rôle de modérateur et d'intervenant. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand je me suis retrouvé dans la position... Alors, je venais aux Utopiales, en fait, depuis longtemps. J'étais présent à Poitiers, tout à fait anonyme, invisible, et avec le cœur battant. Et je me rappelle d'une image qui m'a marqué et qui m'est restée, Bruno Della Chiesa et Serge Lehmann. Donc, Bruno Della Chiesa, je le découvrais. Serge Lehmann, c'était un dieu vivant. C'était le petit prince de la science-fiction française. Celui qui allait complètement tout subvertir et nous amener dans un monde fabuleux où tout le monde nous comprendrait enfin. Et ils étaient là, tous les deux, à Poitiers, dans le Futuroscope, tout en bas d'une immense salle. Et je me disais, j'étais assis tout en haut, moi, au fond, tout petit. Et je me disais, oh mon Dieu, c'est en train d'arriver. Il se passe quelque chose et c'est en train d'arriver. Et je suis arrivé au bon moment. J'ai connu cette époque où la science-fiction, enfin, allait trouver. Voilà. Donc ça, Bruno, un merci, mais infini. Parce que vraiment, de voir toi aux côtés de Serge Lehmann en train de parler de science-fiction, des enfants, de Jules Verne qu'il allait redévelopper après, c'était vraiment voilà. Donc ça, c'était vraiment ce point commun-là. Et merci infiniment à toi, vraiment pour ça, d'avoir permis ça. Donc tu vois, ça fait partie des bons souvenirs que tu voilà.
Si tu me permets, vas-y, Hugo, vas-y, juste vas-y. Une intervention. Eh bien, tu vois, tu viens de me donner un de mes meilleurs souvenirs du festival. Parce qu'entendre ça 15 ans après, ça fait vachement plaisir. Par ailleurs, il y a un truc, Hugo, on s'était croisé au Futuroscope, mais très très rapidement, et on avait communiqué par email. Et par rapport au ton général des mails que je recevais, recevoir les tiens, les lire et y répondre, ça a toujours été un plaisir. Et je dois reconnaître que ça, c'est tellement rare dans le contexte que c'était quelque chose que j'avais remarqué. Si bien quand Patrick m'a informé il y a quelques années du fait que tu avais repris le flambeau, sans te connaître, mais connaissant ton œuvre. Et ayant démissionné du Grand Prix de l'Imaginaire un jour où tu aurais dû recevoir le prix, mais où à la suite d'une manœuvre que je ne veux même pas décrire, je n'ai pas accepté ce qui s'était passé, je me suis dit, je suis très content que ce soit Hugo Bellagamba qui prenne la suite. Tu vois, on se renvoie la balle gentiment. J'ai de très beaux souvenirs au festival, j'ai exagéré tout à l'heure. Et l'un de ces très beaux souvenirs vient de se produire à l'instant. 15 ans après,
merci.
Merci à toi.
Merci. Merci à Bruno. Merci. Et vraiment, super, merci. Et l'autre, alors l'autre, c'est, vous allez voir, c'est l'inverse. Et quand il a dû trouver Patrick, il avait une liste de 10 noms. Et puis il se retrouvait avec une liste d'un seul nom et il n'y avait que Patrick. Et moi, quand Patrick et Marie sont venus me voir, je faisais des modérations déjà aux tables rondes depuis quelques années. Marie me proposait des modérations. Je me rappelle au tout début les premières modérations pour voir si j'étais capable d'en faire. Et puis après, au fur et à mesure, un petit peu plus chaque année. Moi, j'étais ravi d'être modérateur. C'était être acteur des Utopiales. Je me satisfaisais de ça très bien. Et puis après la Cité des Sciences, après le travail avec Patrick, après le travail avec Roland, donc les choses se sont présentées. Et Patrick et Marie sont venus me parler de cette possibilité d'être délégué artistique. Je me rappelle, on était au lieu unique, autour d'un verre, une table, un soir. Voilà, je me rappelle très très bien de ça aussi. Et là, ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu te sens, est-ce que tu te sens capable, est-ce que tu veux, et on a pensé à toi, parce qu'on pense que tu as un profil qui pourrait apporter des choses aux Utopiales, est-ce que tu veux être délégué artistique? Et là, moi, dans ma tête, j'avais une liste de 10 noms, j'étais tout en bas, j'étais le moins compétent, et je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont proposé à moi, alors qu'il y a des gens qui ont un parcours beaucoup plus développé, beaucoup plus remarquable, finalement, et je me disais, mais est-ce que je vais être légitime dans ce rôle? Et mon premier souci... Heureusement, il y avait Roland qui était à mes côtés, qu'on se connaissait déjà. Ma première angoisse, ça a été, est-ce que je vais faire plus d'une édition ? C'est-à-dire, ce que je me suis dit, c'est je ne vais pas le refuser, évidemment, parce que faire la programmation des Utopiales, c'est l'œuvre d'une vie, quoi. Donc ça ne se refuse pas. Moi, j'étais très admiratif de ce festival. Je me suis dit, je vais peut-être me planter. Je vais peut-être faire un truc qui sera trop pointu ou trop grand public ou trop scientifique ou trop science-fiction, utopie, idée politique. Moi, j'avais une formation idée politique. Et donc je me suis dit, je vais peut-être me planter, mais je ne peux pas ne pas y aller, quoi. Donc j'y vais, ça durera peut-être qu'une année, on me dira, Hugo, t'es bien gentil, t'as fait des trucs super, mais il y a des trucs qui n'étaient pas vraiment bas, donc on va s'arrêter là et on va prendre un autre délégué. Et donc j'étais vraiment dans le souci de me dire, je dois apporter le meilleur de moi-même. Et l'année 2012, c'était les origines. On a voulu appeler, justement aussi en hommage au début des Utopiales, on a voulu ce mot d'origine comme point de liaison avec le passé. Et ça s'est bien passé, hein, et l'aventure a continué, et elle continue, et j'espère qu'elle continuera. Et j'ai bien conscience, j'espère, hein, j'ai bien conscience que voilà, il y a tout un historique, et je rends hommage aussi à Patrick, à Pierre, Marie qui est là aussi depuis un certain temps, parce que vous avez essuyé énormément de plâtre, énormément de difficultés. Il a fallu pousser le festival contre les vents contraires, alors que nous on arrive et on n'a pratiquement que des vents favorables. On a encore des mauvais souvenirs et des mauvais éléments, et parfois on se fait détester, parfois on se fait insulter, c'est vrai. Mais bon, c'est beaucoup moindre, j'imagine, que ce que vous avez dû subir à l'époque.
Il est plus difficile de s'occuper d'un enfant en bas âge que d'un adolescent autonome.
C'est pas sûr, ça.
Ça dépend. S'il est autonome, ça va. 16 ans, bon.
C'est pas sûr, oui. Du tout. Mais je pensais un truc, excusez-moi encore, mais à la suite de ce que tu disais, Hugo... Deux choses, des sortes de proverbes en quelque sorte qui me revenaient sans cesse en mémoire pendant toutes ces années où je n'étais pas là en fait, mais je suivais à distance ce qui se passait et je repensais à tout ce qu'on avait vécu, essuyer les plâtres comme tu disais, c'était un petit peu le cas effectivement, et Patrick et Marie étaient là dès le début, Pierre aussi d'ailleurs entre parenthèses. Ils disaient en fait, dès que vous faites quelque chose, vous avez trois types de gens contre vous. Ceux qui auraient voulu faire exactement la même chose mais qui pour une raison quelconque ne l'ont pas fait. Ceux qui voudraient faire exactement le contraire, quoi que ce soit, et surtout l'énorme masse de ceux qui ne font rien. Et effectivement, c'est un petit peu ce qu'on connaît dans ce genre de circonstances. Bon, ben c'est tout, c'est comme ça. Mais fondamentalement, en voyant tout ça aujourd'hui, tout à l'heure, Norman Spinrad, qui est un des copains que j'ai depuis cette époque, parce qu'il ne faut pas déconner, il y a quand même beaucoup de gens très agréables que j'ai rencontrés, qui sont restés des copains. D'ailleurs, ici, je n'ai pas d'ennemis sur la scène, ce qui est déjà pas mal. Il y en a sans doute dans la salle, mais... On verra après. en fait, le Norman Spinrad me disait tout à l'heure, quand tu as commencé, tu te souviens quand tu as commencé en 96 et tout ça, parce qu'il était là depuis le début, est-ce que tu avais rêvé ça ? Et sur le moment, je me suis dit, ça ferait trop prétentieux de lui dire, ben oui, c'est ça que j'avais rêvé. Mais dans les faits, c'était quand même à peu près ça. Simplement, je me rends compte que, de par les circonstances du changement de lieu, d'abord en 2000, et puis du changement de direction artistique, ensuite en 2001, j'ai lâché le festival au bon moment pour lui permettre de croître. Et Patrick, ici présent, m'avait à l'époque pris une métaphore dont il a le secret, une métaphore suisse, bien entendu. Venant de Patrick, ça ne peut pas être autre chose. Vous connaissez les trains suisses. Et il m'a dit, en fait, toi, dans un train, la seule chose qui t'intéresse, c'est la locomotive. Maintenant, la locomotive est partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raccrocher les wagons. Et je pense que c'est ce qui s'est fait et qui continue à se faire depuis. Et puis, je suis content de voir que finalement, la locomotive a été fort bien entretenue et qu'elle est même aujourd'hui beaucoup plus performante qu'elle ne l'était à l'époque. Voilà.
Juste pour rebondir, sans vouloir, on va faire un tableau rond sans le modérateur, hein, si ça continue. Ouais. Mais...
Aucun problème.
Simon Bréant, quand même, hein, notre modérateur qui est un voilà, maître de l'histoire de la société.
Je suis spectateur.
Non, mais juste pour parler, en fait, non pas de l'origine du festival, mais de la situation aujourd'hui, je pense que ce qui favorise quand même un peu le fait qu'il y ait du monde aujourd'hui dans le festival, c'est que la culture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle favorise aussi. Les genres de l'imaginaire, enfin, évidemment, sans parler de la fantasy, mais que ce soit les nouveaux Star Wars à partir de 99, évidemment, le Hobbit et les autres films de notre ami
de Jackson.
Jackson et autres, on est dans un environnement qui est quand même qui favorise énormément. Tout ce qui tourne autour des genres dans l'imaginaire, comme on les appelle aujourd'hui. George R. R. Martin, je me souviens très bien, en 2003. on pouvait l'inviter. Bah, Trône de Fer, j'ai lu ça, je dis, ah ouais, non, c'est naze, c'est pas bien écrit, ça intéresse personne. Je veux dire, donc, on l'a pas invité. Parce que comme il était très très gros, en plus, il demandait classe à faire et c'était super cher. Donc, voilà, une anecdote. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on invite George Martin avec Game of Thrones, on fait encore plus de public avec Astier. Cette culture-là, elle est devenue une culture dominante. Et je pense que l'enjeu du festival va être de se redéfinir face à cette culture. Quoi. Dans les 5, 10, 25 prochaines années, c'est, la science-fiction, c'est aussi un environnement d'expérimentation. Et il faut aller chercher dans ce domaine ce qui aujourd'hui et demain sera la nouvelle expérimentation et la nouvelle alternative, si on veut bien.
Marie Masson.
Oui, ce que je voudrais ajouter en plus, qui a été très déterminant depuis, je dirais, 3 ou 4 ans, c'est justement l'intégration de manière assez affichée, affirmée de la science. De la science, et là, je remercie aussi Roland Lehoucq, nouveau président, de nous avoir aussi amené un vrai plateau, un beau plateau et un très beau réseau. On voit que ça fonctionne.
Juste une anecdote encore par rapport au fait qu'on se soit approché de Hugo, en fait, puisque Bruno en a parlé également. Lorsque, à un moment, il s'est quand même agi de dire, voilà, ça serait quand même bien qu'il y ait un délégué artistique qui porte à la fois l'image du festival avec un président, mais également qui puisse amener du contenu intellectuel, qui soit quelqu'un, qui ait une espèce de vision panoptique de la science-fiction. Là où c'était relativement simple pour moi, c'est que je venais de quitter la maison d'ailleurs et on avait reçu des dizaines et des dizaines de dossiers de candidats et je savais que Hugo aurait pu être intéressé par la maison d'ailleurs, peut-être, et je l'avais parlé de cette chose-là. Je ne vous dirai pas s'il a postulé ou pas, évidemment, mais j'avais discuté longuement avec lui de la science-fiction comme d'un projet professionnel, ou en tout cas d'un projet intellectuel un peu soutenu. Et ce qu'il m'avait dit m'avait totalement convaincu, et on le connaissait ici, aux Utopiales, dans ce cadre-là aussi, dans un cadre où il était intervenu en tant que... Voilà, en tant que quelqu'un qui soit au-delà d'un écrivain, on va dire, ou d'un historien, mais vraiment quelqu'un qui pouvait avoir une vision, d'organisation d'un événement.
Merci Patrick. Effectivement, l'ambition qui est derrière mon acceptation, bien sûr, qui est un engagement hein, avant toute chose, c'est un peu de rejoindre ce que vous avez dit, c'est-à-dire de trouver le bon équilibre ou l'harmonie, de pas faire un festival uniforme, de ne pas faire un festival finalement pas monochrome, mais en tout cas trop lissé en quelque chose, mais au contraire, de trouver le moyen, et avec l'aide de Roland Lehoucq, c'était véritablement possible. Tout seul, il ne serait pas arrivé sans le président Lehoucq, très actif dans la programmation, et avec lequel on discute. On a des rendez-vous téléphoniques réguliers. On a nos rendez-vous du soir vers 21h30, quand les enfants sont couchés et qu'il n'y a pas d'oreille indiscrète. Et c'était l'idée vraiment de, à la fois, trouver des tables rondes pointues, des sujets avant-gardistes, des sujets qui font de la science-fiction un laboratoire du présent et du futur en émergence, mais aussi toujours, et ça c'est très important parce que ça nous tient à cœur à tous les deux, une pédagogie. Voilà, la science-fiction doit être aussi une pédagogie du monde, hein, une représentation, un regard sur le monde, et toujours aller vers le public. L'image du train est très bonne, je vais la prolonger. Vous avez créé la locomotive, Patrick a raccroché les wagons, les passagers sont montés pendant toutes les années, et ils n'ont cessé d'être de plus en plus nombreux pendant toutes les années avec Pierre, comme il l'a très bien dit tout à l'heure. Et ma mission, c'est que les passagers fassent le plus beau des voyages. Et que ce voyage, peu importe où il va, on verra bien, on sait où est le point de départ, mais les passagers sont dans les wagons, et ma mission, c'est que ces passagers soient heureux de leur voyage. Alors le but, c'est de faire du train des Utopiales la quintessence du transport ferroviaire. L'Orient Express, voilà, c'est ça qu'on vise.
Mais... Je voudrais revenir sur ce que disait Patrick Guiguer tout à l'heure, c'est-à-dire, il dit que c'est la culture dominante, mais Nantes est une exception. C'est-à-dire que je fréquente pas mal de festivals en France et ailleurs. Et en dehors de peut-être Mons, le festival consacré à la fantasy, c'est le festival public le plus important. Et ce qui est exceptionnel à Nantes, j'ai l'impression que c'est la population qui s'est emparée du festival. Et ça, c'est exceptionnel parce que souvent, on a parlé du milieu. Le milieu est freine énormément, du coup, parce que le milieu est excluant. Et ce qui s'est passé à Nantes, c'est que la science-fiction s'est ouverte et ça inclut la population. Et on a vu les statistiques qu'on faisait sur la fréquentation. On s'apercevait que principalement les gens qui venaient au festival, c'était des Nantais. Et ça, c'est un phénomène qui est très intéressant à observer. Et je pense que si c'est une locomotive, le festival, ça doit être une locomotive pour d'autres festivals, d'autres façons de réfléchir les festivals, c'est-à-dire d'inclure les populations locales. Et le fait, évidemment, l'implantation de la Cité des Congrès, contrairement au Futuroscope, où il y avait un handicap qui était la distance vis-à-vis de la ville à Poitiers, ici, on a quand même une position centrale qui facilite énormément l'accès à la population au festival. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, on a eu pas mal de discussions là-dessus, sur cette espèce d'unité de lieu qui est très très importante, quoi. Donc je pense que si c'est une locomotive, ça doit devenir aussi une locomotive pour d'autres festivals, parce que c'est un exemple assez unique, je pense, pour l'instant, comme le lieu d'ailleurs, si je peux me permettre.
Alors, un festival qui a été une suite de défis à relever, qui a permis de faire mieux connaître la science-fiction et qui a suivi, si je comprends bien, une évolution générale de la représentation de la science-fiction et de l'imaginaire auprès de la population, et un festival aussi qui n'est pas tout entier contenu dans sa direction artistique, et j'aimerais, pour qui le souhaitera, qu'on profite de cette table ronde pour rendre hommage à tous les gens qui vous ont soutenu, tous ceux auxquels vous pensez, enfin, je ne pense pas forcément à des noms, mais tous les gens qui font vivre aussi le festival, parce que bénévoles, libraires, enfin, tous les gens qui s'investissent et qui lui ont donné une réalité. Bon, il serait impossible de les remercier tous, mais en tout cas, il y a dans tout ce dispositif des bonnes volontés de toutes sortes que vous avez su canaliser, attirer à vous et qui ont permis que les choses se fassent ainsi. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut réagir.
Non, pour rebondir ce que Pierre a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que les premières années, la première ou deuxième année où ce festival existait ici à Nantes, lorsqu'on allait distribuer même des flyers dans les bars, on avait une réaction extrêmement négative de la population, puisque c'était quelque chose qui coûtait très cher, c'était dans la Cité des Congrès, qui est, de toute façon, c'est à la limite pour les bourgeois, ou en tout cas, voilà, c'était une proposition qui était excluante, alors qu'aujourd'hui, on me demande, enfin, des gens qui sont serveurs au lieu unique, ou des gens qui travaillent avec moi, enfin, plein de gens dans la rue, presque, les gens que je rencontre comme ça, me demandent des entrées, ou me demandent qu'est-ce qui se passe dans le festival. Il y a une vraie appropriation de la ville, de cet événement-là. Et ça, c'est vraiment, je pense, à la fois exceptionnel, mais c'est nettement. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, et ce pourquoi j'espère que le festival durera encore un peu, c'est qu'il a dépassé les personnes qui le font. Et ça, je crois que ce n'était pas le cas, peut-être, en tout cas, les deux premières années.
C'était d'autant moins le cas que... Je pense que c'est l'une des dimensions du festival que personnellement je n'ai jamais comprise. Ça tient à ce que je suis, de manière générale. Je ne sais pas ce que c'est qu'un territoire, je ne suis pas attaché à un territoire. Et à partir du moment où le festival avait été créé, bon, il a été créé au Futuroscope suite, j'allais dire, à un concours de circonstances, il a été déplacé ici à Nantes. Alors là, par contre, ça n'était pas du tout un hasard. Les éditions de La Talente, avec qui j'étais beaucoup en contact lors des premières éditions, m'avait convaincu, donc je voudrais rendre hommage ici à Pierre Michaud et Mireille Rivalan, qui m'ont convaincu que la ville de Nantes était le lieu adéquat, idéal quasiment pour faire ce festival, parce que c'était la ville de Jules Verne, parce qu'il y avait le lieu, effectivement, la visite que Marie mentionnait, etc. Mais pour ma part, comme l'ambition, si vous voulez, enfin, l'ambition, c'est un bien grand mot, mais le rêve que j'avais, c'était en fait... De démocratiser en quelque sorte la science-fiction de bonne qualité. Je pense que j'étais évidemment pas le premier à rêver de ça. Et encore une fois, j'ignorais ce que je devais ignorer. Une naïveté confondante. Je me suis dit, eh bien, après tout, ce qui m'intéresse, moi, c'est la bonne littérature de manière générale pour commencer. Et il se trouve que parmi les littératures que j'aime bien, il y a la science-fiction. mais j'étais beaucoup trop restrictif en ce qui concerne deux choses. D'abord, les genres. Certains d'entre vous qui sont, j'ai entendu Mireille tout à l'heure, ceux qui étaient là depuis le début se rappellent que je voulais pas du tout de fantasy, par exemple, parce que je considérais que c'était un genre puéril qui n'avait pas du tout sa place et que le fait que ce qui est le même lectorat, c'était un rêve de libraire ou d'éditeur éventuellement, mais pas ce que je voulais. Mais surtout, il y avait le problème de la territorialisation. Je souhaitais effectivement que le festival s'élargisse le plus possible, mais dans mon esprit, l'endroit où il se trouvait importait relativement peu. Et au moment où on a changé la direction artistique, certains d'entre vous, j'en suis sûr, s'en souviennent, il y a eu une grosse discussion où on a dit on doit pouvoir monter à 50, 60, 70 000 visiteurs. Mais moi, franchement, ça ne m'intéressait pas que les 50 000 visiteurs viennent de Nantes, parce que ça signifiait qu'on allait pêcher en quelque sorte au même endroit, plus profond, en sacrifiant la qualité. Et dans mon esprit, il fallait pêcher plus large en surface, en gardant la même exigence de qualité, mais que le festival prenne une dimension internationale au niveau du public qui n'existait qu'au niveau des professionnels. Et ça, en fait, j'étais prisonnier de cette vision-là. J'étais incapable de dépasser cette vision-là. Et je me souviens très bien, je voudrais aussi remercier, puisque tu nous y invites, Simon, la ville de Nantes, bien évidemment, qui nous a accueillis à bras ouverts au moment où la cohabitation avec le Futuroscope n'était plus possible. Eh bien, on nous a accueillis, mais évidemment, il y avait une logique territoriale. Et c'est évident, la ville étant un financeur important, la Cité des Congrès étant un financeur important, il fallait d'abord et avant tout s'adresser à un public nantais. Et il se trouve encore une fois, ceux qui me connaissent comprendront très bien ce que je veux dire. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un territoire. Je ne suis pas attaché ni à un lieu, ni à un pays, ni même à un continent. Et à partir de là, eh bien, j'avais une vision qui n'était pas du tout réaliste en ce qui concerne le public. Par contre, il y a une dimension qui existait dès le début et qui peut-être a été perdue en route quelque part et qui était finalement celle à laquelle moi j'étais le plus attaché. Et qui existait dans les toutes premières années, c'était la possibilité pour des écrivains et pour des éditeurs de se rencontrer lors du festival au strict minimum au niveau européen. Parce que j'avais remarqué, et je suppose que c'est toujours une réalité, que, enfin moins peut-être aujourd'hui, mais quand même, la plupart du temps, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie ou ailleurs, on publiait les auteurs nationaux, ceux qui s'exprimaient dans la langue nationale, et les auteurs anglophones, au motif qu'en général, les éditeurs ne lisent que dans leur langue et en anglais. Et que je trouvais très dommage qu'on ne puisse pas lire des auteurs allemands en France, qu'on ne puisse pas lire des auteurs italiens en Espagne, etc., etc. Et ça a fonctionné au début, mais cet aspect salon professionnel au niveau européen, au bout du compte, c'était ce qui continuait à m'intéresser le plus. Et il n'y avait pas moyen de faire financer une manifestation comme celle-là sur une base comme celle-là. Donc il était temps pour moi, encore une fois, de passer la main. Voilà, tant mieux finalement.
Alors, Hugo veut réagir, mais on va ensuite ouvrir les questions au public pour que vous ayez l'occasion. Mais voilà.
Juste rapidement, puisqu'on est au niveau... Je ne vais pas rebondir sur ce que tu as dit, c'est très, très intéressant et ça donne encore plus de relief par rapport à toute l'histoire. Juste au niveau des remerciements, moi j'en ai deux vraiment à faire. Deux. D'un côté, toute l'équipe des bénévoles, mais aussi toute l'équipe de la Cité des Congrès, avec Marie Masson à sa tête. Tous les gens qui sont derrière, Laura Bettoni, Alexandra Bertrand, tous les gens que je ne peux pas nommer tout le monde, qui font un travail remarquable et difficile toute l'année pour préparer ce festival. Et sans cette continuité, sans cette structure, sans cette presque sécurité, stabilité administrative, ça n'existerait pas. Et les bénévoles qui sont là, qui font un travail remarquable pour permettre que les tables rondes se succèdent bien, permettent, etc., c'est vraiment très important. Et l'autre remerciement, à titre vraiment personnel, hein, pour le compte, c'est aux auteurs, en fait. Parce que les auteurs qui répondent à mes invitations, même si parfois c'est compliqué, même si parfois il y a des problèmes, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et certains sont aussi mes modérateurs, les gens que je choisis pour que les tables rondes se passent bien et qui donnent énormément d'énergie, énormément de temps, comme ici Simon Bréant, qui font énormément de travail pour que le festival soit à la hauteur de son histoire. Et donc, je remercie profondément les gens qui viennent pas simplement pour parler de leur œuvre, pas simplement pour parler de leur vision de la science-fiction, mais ils viennent pour les Utopiales, pour continuer l'aventure des Utopiales. Tout le monde ne pense pas comme ça, mais la majorité des gens avec qui j'arrive à faire des choses merveilleuses. C'est grâce à cet investissement aussi. Voilà. Donc vraiment merci.
Je voulais ajouter évidemment un grand merci aux bénévoles, aux équipes de la Cité, puisque moi je travaille ici depuis 16 ans. On n'organise pas 10 festivals de science-fiction par an. La plupart du temps, on loue nos espaces, on a des clients. Je peux vous dire qu'organiser les Utopiales, ce n'est pas accueillir un congrès automobile Renault. Ça n'a strictement rien à voir. Donc je remercie les équipes, puisqu'on n'accueille pas de la même manière des artistes, des plasticiens, des auteurs que de simples exposants qui exposent des produits, etc. Donc pour les équipes, c'est un vrai challenge, c'est une vraie course contre la montre. On ne se rend pas compte, mais en backstage, ça court dans tous les sens. Et bien entendu, les bénévoles, on a démarré en 2003 ou 2004 avec une petite dizaine de bénévoles. Au départ, on partait du principe que non, on préférait pas le bénévolat parce que tout travail méritait salaire. Mais on est venu toquer à notre porte. Les premiers bénévoles qu'on a eus, c'était des passionnés qui voulaient rencontrer tel et tel et tel et tel et tel auteur. Et puis maintenant, on arrive quand même à une équipe de 64 bénévoles. Et sans eux, on n'y arriverait pas, tout simplement. Donc grand merci à eux. Et puis un petit remerciement, bien sûr, à l'association. Je regarde le nouveau président, l'ancien président, aux Nantais, à la Talente. Tu as eu raison, Bruno, et particulièrement Mireille Rivalan, qui nous a bien accompagnés depuis quelques années. Merci.
Merci. Alors, compte tenu de la faconde de nos invités, je pense que nous aurons difficilement le temps pour plus d'une question, peut-être deux. Donc, y a-t-il une question ? Il y a une question, là.
Bonsoir. Donc ma question, ça concerne... Alors moi, ça fait plusieurs années, ça fait 8 ans que je viens aux Utopiales, et j'ai constaté que sur plusieurs éditions, il y avait aussi du fantastique et de la fantasy, et que cette année, par exemple, c'était un festival 100% SF. Donc pourquoi ce choix, en fait ?
Où êtes-vous ? Je vous vois pas. Ah voilà. Eh bien, c'est simple, parce que la fantasy, c'est complètement puéril. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. C'est une blague, c'est une blague.
Je suis fâchée.
Non, mais c'est une blague, c'était évident, puisque je, voilà. Non, tout simplement, c'est vrai, que depuis 2012, avec l'influence aussi de Roland Loup, comme il est parti, je peux lui mettre tout sur le dos, c'est vrai qu'on est plus dans un festival de science-fiction, et moi aussi, j'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à cette charge spéculative de la science-fiction qui doit être un outil pour comprendre le monde, non pas que la fantasy ne le soit pas, car je pense que la fantasy a parfaitement son rôle à jouer, et même les œuvres qui me plaisent le plus sont souvent les œuvres qui sont mixtes ou inclassables. Il y a certaines œuvres d'ailleurs qui ne sont pas très, très connues et qui jouent justement sur cette partie-là. Donc il y a moins de fantasy, c'est indiscutable, et il y en aura toujours moins, mais elle a sa place. Tout à l'heure, on avait fantasy ou fantastique, on avait quand même de l'autre côté, hein, sur Chaillol, vous aviez Deborah Harkness, qui est l'un des auteurs les plus en vue en ce moment, en fantastique, en fantasy. Hein, donc on n'est pas du tout sectaire, absolument pas. Simplement, c'est vrai qu'asseoir la programmation de la table ronde depuis 2012, on s'est quand même focalisé sur des thématiques, ou en tout cas sur des problématiques de science-fiction. Et puis aussi, parce qu'aujourd'hui, paradoxalement, la science-fiction qui a peut-être gagné, elle a peut-être aussi perdu, et qu'on voit une dilution que regrette d'une certaine manière, à juste titre, Patrick Giger, une dilution du côté avant-gardiste de la science-fiction. Et que face à cette dilution, moi, je ressens le besoin, en tant que programmation, en tant que directeur artistique, de lui donner le moyen de rester vivace. Et c'est pour ça que la programmation est d'abord et avant tout une programmation de science-fiction. Mais c'est vrai que cette année, il y a peu de tables rondes de fantasy. Mais les années qui viennent, il n'y a pas du tout de sectarisme. Mais il y aura de la fantasy, évidemment.
De toute façon, le thème de l'année prochaine, c'est Dragon et Sortilège. Hein.
Voilà, donc, c'est ça. Et on a...
Donc... Une autre question ?
Dragon et sortilège, allons-y, mais dragon mécanique et sortilège quantique.
De toute façon, les dragons sont de la science-fiction. Je vous renvoie à Anne McCaffrey, par exemple.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai subi toutes les éditions des Utopiales depuis le début. Je dis salut à Bruno en passant. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir, toujours des expos, des événements intéressants. J'ai toujours pris un maximum de plaisir à ces Utopiales. J'ai un seul regret, c'est que la Maison d'ailleurs, qui a longtemps collaboré avec le festival en lui apportant des expositions très intéressantes, ne soit plus partenaire depuis une ou deux éditions. Voilà.
Réponse compliquée peut-être, mais simple en même temps.
C'est peut-être parce que son directeur historique était aujourd'hui à Nantes.
Le partenariat avec la maison d'ailleurs a continué en fait. Il n'y a pas vraiment de rupture de partenariat. Simplement, il y a eu effectivement à un moment donné, je crois en 2013, on n'a pas réussi à s'accorder dans la programmation des expositions. Donc là, je vais laisser plutôt Marie Masson répondre, puisque moi, la partie des expositions, évidemment, je ne suis pas directement acteur. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes toujours en rapport avec la maison d'ailleurs, que nous échangeons régulièrement. L'avenir n'est pas du tout celui d'une rupture de partenariat définitive. C'est absolument
J'ai
pas
une
ça.
Solution science-fictive à proposer, François. Puisque c'est toi, François, hein, on est d'accord. Je propose, parce que j'ai cru comprendre qu'ici, en France, il y a de grosses discussions pour savoir si Nantes est en Bretagne. Il semblerait que votre gouvernement n'ait rien trouvé de mieux à faire que de redécouper les régions, etc. Bon, très bien. Eh ben, je propose que Nantes soit annexée par la Suisse, d'une part, ce qui serait pas mal, que la France annexe la Suisse par ailleurs, et surtout que la maison d'ailleurs soit dirigée par un Français. Parce que si nous avons, en France, l'ouverture d'esprit suffisante pour accueillir un excellent directeur du lieu unique qui soit suisse, alors je ne vois pas pourquoi on ne proposerait pas un Français pour diriger la maison d'ailleurs. Et à ce moment-là, il sera répondu à ta question, François. Voilà, merci. C'était de la politique fiction à la petite semaine, mais je ne pouvais pas m'en empêcher.
Bien, bah merci. La musique nous indique que notre temps est écoulé.
Donc, merci à vous.
Je vous remercie. Je remercie nos intervenants, présidents, directeurs. Et je vous souhaite une bonne suite de festival.
Et merci Simon.
Et merci au public quand même qui est venu.